bienvenue à Droit Positif, un balado de la Coccida où on jase de droit, de VIH et des droits des personnes vivant avec le VIH. Je me présente, je m'appelle Hugues Lefebvre-Moras, je suis père aidant à la Maison Plein Cœur depuis 2015 et je suis une personne séropositive.
Et moi, c'est Charlie Morin, je suis podcasteur et chargé de communication pour Coalition Plus, une coalition internationale d'organismes de prévention VIH. Aujourd'hui, à Droit Positif, on parle maternité.
Et avant de se lancer dans le vif du sujet, on tient à rappeler à nos auditeurs et nos auditrices que certaines informations qui seront discutées dans cet épisode sont de nature juridique, mais qu'elles ne constituent pas pour autant des conseils juridiques. Si c'est ce dont vous avez besoin, on vous conseille à consulter un ou une avocate.
Aussi, on voudrait vous dire que l'épisode qui suit contient des références à la violence verbale et au suicide qui pourraient rappeler des moments difficiles pour certains et certaines. On voulait juste vous prévenir.
Salut Charlie, comment ça va?
Allô, ça va bien toi?
Yes, ça va bien. Hey, on parle de maternité aujourd'hui. De quoi tu penses de ça? J'ai entendu dire peut-être entre les branches que toi, les expériences de maternité avec le fait d'avoir deux mères, t'as une relation particulière avec ça.
Oh my god, mais qui t'a dit que j'avais deux mères? Je garde tellement ça secret et près de moi, j'en parle à personne.
Je le sais, oh my god, mais non, mais je fais des bonnes recherches. À moi, je suis un scorpion, fait que je suis capable d'aller stalker loin.
Pour ceux que c'est leur premier épisode, qui sont pas encore in the joke, la joke c'est que je me ferme jamais à gueule avec mes mères lesbiennes. Fait que...
Ceci étant dit, je pense quand même que pour parler de maternité, ça prendrait peut-être une personne qui est mère plutôt que nous qui avons une ou plusieurs mères. Donc pour ça, j'invite Cathy. Allô Cathy, bienvenue à Droit Positif.
Bonjour, merci à vous.
Merci d'être là. On est très content de t'avoir avec nous pour que tu partages justement ton expérience de maternité par rapport au VIH. Puis là, justement, pour commencer avec une petite question générale, toi, comment tu vis ça, VIH et maternité, par rapport dans ta vie?
Ben, ça va pas mal assez bien. Au début, c'est pas facile, mais on finit par s'adapter puis trouver des solutions à tout ça.
Puis ça a commencé comment d'avoir à concilier les deux, en fait? Qu'est-ce qui est arrivé avant, puis comment ça s'est déroulé dans les événements?
Ça a commencé avec le fait que ma fille est tombée malade après l'accouchement. Ils ne trouvaient pas ce qu'elle avait. Ils l'ont su un an et demi plus tard et c'est là que ça a commencé, qu'il a fallu s'habituer et puis trouver des solutions pour pouvoir y arriver.
Juste pour m'assurer de bien comprendre, est-ce que c'est ta fille qui a été diagnostiquée avant toi? Est-ce que toi, tu étais au courant de ton statut sérologique à ce moment-là?
Non, je n'étais pas au courant. C'est pas ma fille non plus. C'est son papa qui est tombé malade un an plus tard. Wow. Un an et demi plus tard, c'est comme ça qu'on a su qu'il était zéro positif et qu'il me l'avait transmis.
Wow!
Okay. OK, fait que c'est ça. Mon Dieu, c'était quelque chose qui était inconnu au départ. Puis là, ça a pris, c'est ça, le fil des événements d'un premier diagnostic qui a fait découler les autres, dans le fond.
Oui, exactement, c'est ça.
Puis, comment tu l'as vécu, ta première grossesse?
Ça a bien été. C'est super bien été. Il n'y avait rien, il n'y avait aucun problème. C'est après l'accouchement, quand le bébé a fait des grosses convulsions, deux semaines de convulsions à l'hôpital. Après ça, des semaines à l'hôpital parce qu'elle pognait tout ce qui se passait. Tout ce qui se passait, elle l'attrapait. Puis c'était tout le temps à l'hôpital, à toutes les semaines, à tous les mois. C'est là qu'on s'est posé des questions. Le papa, après ça, est tombé malade.
Wow, OK. Donc, c'est quand même un début dans la maternité assez intense. Là. Un bébé tout le temps malade dans les premières années, ça doit pas être évident. Là. C'est pas ce à quoi on s'attend nécessairement là, à une première grossesse.
Non, exactement. C'est pas facile. C'est très, très, très difficile.
Puis, est-ce que le fait, une fois que vous avez eu le diagnostic, j'imagine que peut-être, là, vu que vous aviez été capable de mettre un nom sur la maladie, puis de commencer, j'imagine, à peut-être traiter, ça s'est amélioré. Est-ce que c'est le cas?
Quand on l'a appris, ça a pris un peu de temps avant d'avoir un médecin pour pouvoir commencer les traitements, mais à la minute qu'on a commencé les traitements, elle tombait plus malade, tout allait bien, là. Il n'y avait plus rien qui se passait. Elle était super en forme, elle courait partout, elle criait.
Il y a un beau bébé comme on aime les voir. Mais là, ça grandit à un moment donné, justement, ces enfants-là. Fait que là, on commence à aller à la garderie, je présume, là. Comment ça s'est passé, là, vous, justement, quand ta fille est arrivée un peu plus vieille, puis que là, il fallait peut-être commencer à dire, ben oui, là, à prendre des médicaments. Y a-tu comme une expérience de dévoilement par rapport à ça?
Moi, tout simplement, en tant que moi, maman, j'ai préféré aller voir la dame de la garderie, discuter avec elle en privé, lui expliquer toute la situation qu'elle avait, ce qui se passait, puis comment fallait réagir en tant que telle. Et puis, ça a été quand même assez bien accepté, toléré parce que la madame était très contente parce que, justement, j'ai pris la peine d'aller la voir puis expliquer la situation. Comme tu as dit, il y en a beaucoup qui ne disent pas puis qui se produisent des situations où qu'il aurait fallu savoir. Fait que moi, je préférais qu'elle soit directement au courant pour aussi la protéger elle, mais aussi protéger les autres enfants autour.
Puis comment t'as vécu ça de, t'sais, d'avoir à prendre cette madame-là à part, puis de t'ouvrir sur comme quelque chose de très intime comme ça?
Je l'ai bien vécu parce que je l'ai pas, c'était pas la première fois que je le faisais. Fait que
Absolument,
j'étais
ouais.
bien à l'aise de lui parler. Et comme que je dis, moi, je préfère que quand ma fille va quelque part, qu'ils soient déjà au courant de ce qui se passe. Comme ça, ils savent quoi faire et ils savent comment prendre l'enfant.
Ouais, puis est-ce que ça a été une expérience similaire pour l'arrivée à l'école?
La même chose, j'ai pris le directeur à part, j'ai expliqué la situation. J'ai dit, vous êtes au courant. Les seuls qui peuvent être au courant, c'est l'infirmière et son professeur et la directrice, personne d'autre. C'était dit puis c'était placé en ordre.
Mais c'est ça, quand tu sets des limites claires comme ça avec des professionnels, tu comptes sur leur
Oui.
professionnalisme, puis s'ils dérogent, tu sais que c'est leur faute humaine, mais c'est ouais.
Voilà.
Non, mais je pense que c'est important, là, justement, c'est des informations confidentielles. Donc oui, pour un désir de sécurité de tout le monde, c'est bien. Je pense que tu as été à l'aise de faire le dévoilement, mais c'est justement important de spécifier peut-être que c'est pas le même genre d'information qu'une allergie alimentaire qu'on veut que ça soit dit à plus de monde. Mais est-ce que... À cause, je sens que tu as vraiment décidé d'y aller, puis que tu étais très confiante, puis que tu as mis tes limites, ça a été fait dans le respect, mais est-ce que tu sentais quand même une pression de faire le dévoilement ou c'est vraiment venu de toi?
Non, 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 il n'y avait pas eu de pression, zéro pression. C'est vraiment venu de moi. Moi, je me suis dit que j'aimais mieux qu'ils savent à quoi s'attendre, que ça s'apprenne, puis qu'après ça, ma fille se fasse achaler ou quoi que ce soit. Fait que j'aimais mieux mettre tout de suite les points sur les i avec eux. Comme ça, ils peuvent pas dire, ah, il s'est passé ça, vous nous avez pas avertis. Ils sont au courant de tout. Moi, je préférais ça de même. Puis en même temps, comme je vous disais, protéger les autres autant qu'elles. C'était mon idée dans ma tête, c'était comme ça.
Puis, est-ce que ces situations-là que tu voulais anticiper, est-ce qu'il y en a certaines qui sont arrivées au final ou...
Ben oui, ici, dans le fond, moi, quand je suis tombée malade, personne n'était au courant. J'en ai parlé à ma mère. Ma mère, est-ce qu'elle a fait, elle en a parlé à ma cousine, et ma cousine l'a dit à tout le monde. Ça fait que ma fille, elle était un peu comme jugée. Puis quand elle allait à l'école ici, elle se faisait beaucoup écœurer à propos de sa maladie. C'était rendu au point que les enfants lui disaient, va te suicider, t'es malade, tu nous donnes ta maladie. C'était rendu grave et je l'ai changé d'école pour la protéger, elle. Puis j'ai tout de suite été discuter pour régler la situation qui s'est passée. C'est ça.
Je comprends ça.
OK, donc je vois où l'importance de mettre des limites, elle vient quand même de...
Oui, exactement.
Ah, les enfants, ça a peu d'empathie, ça a peu de tact, puis ça répète toute la merde que leurs parents leur disent, hein, fait
Oui,
que,
c'est
aïe
ça,
aïe.
exactement.
Aïe aïe, là.
Ouais.
Aujourd'hui, tu as 3 enfants, si je me trompe pas.
Oui, exactement.
Comment ça s'est passé, ta décision d'avoir d'autres enfants?
Ça s'est passé avec le fait que j'ai discuté d'abord avec le médecin, savoir où ça pouvait m'emmener. Est-ce que je peux avoir d'autres enfants? Est-ce qu'ils vont avoir la maladie? Est-ce qu'il va arriver ci ou ça? Quand elle m'a expliqué les termes, non, il peut, avec les traitements, il y a beaucoup moins de risques qu'il l'attrape. Vraiment pas beaucoup. Tant qu'on se traite, tout va bien. Fait que, avec cette phrase-là, c'est là que je me suis décidée que, OK, s'il n'y a pas beaucoup de risques qu'il l'ait, moi, j'en voulais d'autres. J'ai pris la décision de, j'en veux encore. Grâce aux médicaments, je peux en avoir. Alors, je profite
Ben oui,
du fait
absolument.
que je peux avoir mes enfants.
Puis là, ça ressemblait à quoi, justement, les ressources? Là, tu dis que tu as parlé avec des professionnels de la santé pour discuter de ça, mais les autres ressources là, pour vivre en tant que mère séropositive avec des enfants, un enfant qui est aussi séropositif, quel genre de services on a accès?
Ben moi, avant de connaître le blé, j'en avais pas de ressources. Je me débrouillais tout seul, sans mentir. Là. Je me débrouillais tout seul. J'avais pas d'aide. Le seul aide que j'avais pour me rendre à Sainte-Justine, c'était les transports au centre bénévole.
Ouais.
C'était tout ce que je connaissais. À part ça, j'avais aucune aide, là.
Ça va mieux maintenant. Mais j'imagine, donc, c'est ça. Est-ce que tu dis aller à Sainte-Justine, c'est parce que, justement, vu que c'est une maladie plus particulière puis peut-être plus rare chez les enfants, tu avais besoin de soins plus spécialisés?
Oui, c'est des soins plus spécialisés, puis c'est aussi le fait qu'ils sont spécialisés dans les maladies infectieuses et des enfants. Ça aussi, ça aide beaucoup. Fait que c'est là-bas qu'ils m'ont envoyé directement quand ils ont dit qu'ils étaient malades, là, pas de discussion, pas de Trois-Rivières, pas de Québec, rien, c'est Sainte-Justine, direct.
Est-ce que tu as déjà abordé ton statut avec tes enfants, puis c'est comment ta manière de leur en parler, les mots que tu utilises, puis ce qu'ils en comprennent, ce qu'ils en disent?
J'aborde ça quand ils sont très jeunes. Après, quand ils commencent à comprendre, là, 6 ans, 7 ans, là, je leur explique la situation, que maman est malade, leur soeur aussi est malade, qu'ils peuvent la coller, ils peuvent faire des câlins, j'explique la maladie, tout ce qu'il faut à savoir, puis je leur explique qu'il n'y a aucun danger, là, ils peuvent pas tomber malades,
ouais.
C'est pas contagieux là, comme une grippe ou bien la gastro ou autre, là, c'est zéro contagieux de ça.
Surtout que ce qui est bien, c'est que les enfants, c'est des éponges, tu sais, ils vivent pas avec l'espèce de stigma historique qu'il y a avec le VIH. Fait que si tu leur expliques directement comment tu le vis avant qu'ils en entendent parler, ils vont en avoir une bien meilleure opinion, tu sais.
Exactement, c'est mieux comme ça.
Éventuellement aussi jouer un rôle d'éducation, là. Si justement il y a des choses qui se sont dites à l'école et tout, là, si y a une fratrie de 3 frères et sœurs là, bien éduqués qui savent de quoi ça en retourne, là. Ouais, c'est le fun. Mais tu disais donc autour de l'âge de 6-7 ans que tu en parles à tes enfants, que tu leur fais ton dévoilement.
Oui.
Mais dans le cas de ta fille qui c'est un dévoilement aussi de son statut, elle aussi, est-ce que c'est venu aux mêmes âges? Comment on annonce, dans le fond, un dévoilement à la personne qui a son propre statut?
Ben, moi, rendu à 6 ans, déjà, elle commençait à me poser des questions. Maman, pourquoi je prends des médicaments? Qu'est-ce qui se passe? Je suis allée d'en prendre. Fait que moi, déjà à 6 ans, j'ai expliqué comment ça marchait. Je lui ai dit pourquoi. Puis j'ai aussi expliqué quoi faire si elle se blesse ou autre. J'ai déjà mis tout ça dans son éducation à partir en étant jeune, pour qu'elle sache à quoi s'attendre plus tard. OK, tu prends tel médicament pour telle raison. J'aimais mieux ça qu'attendre, puis plus tard, elle ne sache pas, puis qu'elle se fasse, tu sais, ah, je prends ça, moi, j'en veux pas, puis j'arrête de les prendre. Fait que, en sachant, en partant ce qu'il y en est, comme ça aide aussi, tu sais. Puis j'ai expliqué aussi que si elle ne les prenait pas, ça pouvait être dangereux pour sa vie et pour, tu sais, elle pouvait en mourir ou bien elle pouvait tomber gravement malade. Elle sait déjà tout ça depuis qu'elle est toute petite.
Wow, ben c'est les enfants ont souvent un courage puis une résilience qui nous surprennent en tant qu'adultes. Là, j'imagine que ça a été le cas de ta fille aussi. Mais la question que je me pose par rapport à ça, à cause on parle là, tu sais, on parle d'école primaire, de garderie, donc j'imagine que ta fille est née relativement récemment, donc les médicaments, ils sont déjà bons, fait que, tu sais, lui dire qu'elle n'est pas contagieuse et tout, c'est, tu sais, les médicaments l'ont rendu, j'imagine, indétectable assez vite.
Oui, c'est ça, ça est rendu à 12 ans, ça fait 11 ans qu'elle était détectable.
OK, ouais. Génial.
Ouais, c'est ça.
Puis au-delà, c'est ça, de ce qu'on a parlé peut-être à l'école, là, dans la première école où ça a été su, maintenant que ça va mieux dans des nouveaux environnements, est-ce que tu sais si tes enfants vivent des difficultés par rapport, ben c'est ça, dans le cas de ta fille, à son statut, ou sinon les autres par rapport au tien, de savoir qu'ils ont une sœur ou une mère malade, ben pas malade, mais séropo, est-ce que ça c'est arrivé?
Non, parce que personne là-bas qui est au courant de quoi que ce soit. Fait que c'est jamais arrivé là-bas, là. Elle est bien protégée, puis elle n'en parle pas non plus, là. Juste pas quelque chose qu'elle va aller dire partout, là.
Oui, que c'est on garde ça confidentiel. Mais tu parlais de ta famille tantôt. Est-ce que dans la famille, ça s'est amélioré? Est-ce qu'il y a eu, comme tu disais tantôt, des points sur les i qui ont été mis?
Ah oui, ça a été mis assez vite, puis je leur ai expliqué. Puis j'ai dit, si vous voulez en connaître plus, vous pouvez appeler des médecins, vous pouvez appeler Info Santé, vous pouvez appeler des personnes qui connaissent ça, ils vont vous expliquer la situation. Et si vous voulez toujours pas vous approcher, vous avez le droit, c'est votre choix. Mais informez-vous comme du monde de la situation.
Oui, vous autres, vous continuez votre vie, là. C'est ça, c'est non négociable. Là. Soit vous acceptez notre situation.
Exactement. Ouais. C'est ça. Génial. Vous acceptez ou bien vous partez. Moi, j'ai mis ça de même parce que la petite, elle n'a pas à vivre du rejet pour.
C'est ça. Bon, ben, moi. J'aurais quand même 2-3 questions à poser à notre avocat. Je pense que c'est le temps de démêler des affaires juridiques. Allô, Laurent, es-tu là? Est-ce que tu m'entends?
Je t'entends. Salut, Charlie. Allô, Hugues. Bonjour, Cathy.
Salut.
Démêler des affaires juridiques, ça m'interpelle, moi.
OK. Fait que là, Cathy a fait le choix d'être super transparente avec ses enfants, puis on a vu que ça a donné lieu à une éducation vraiment cool, puis à transmettre des valeurs super inclusives. Mais, tu sais... C'est pas toutes les cellules familiales où la communication est simple, puis où ça peut nécessairement être qu'on transmet. Un parent qui vit avec le VIH, es-tu obligé de le révéler à ses enfants?
Oui, ben effectivement, tu sais, ça c'est un... Non, pour répondre à ta question, Charlie, non. Tu sais, là, on a un super bel exemple avec ce que Cathy a partagé son vécu, puis on a un super bel exemple de comment on peut... être une personne qui vit avec le VIH puis vivre une parentalité qui est super épanouie. Mais il n'y a pas d'obligation légale pour un parent de dévoiler son statut à un enfant. Puis je vous dis ça d'un point de vue vraiment légal. Évidemment qu'un parent peut le dire à son enfant. Il n'y a rien qui l'empêche de le dire à son enfant puis d'avoir cette conversation-là avec son enfant. Mais on peut pas finalement, on peut pas utiliser la loi pour tordre le bras d'un parent là, pour le forcer à dévoiler son statut à ses enfants. Autrement dit... C'est peut-être un petit peu résumé, mais la loi se mêle pas trop de ça. C'est vraiment un choix parental. C'est-à-dire que si un parent décidait de garder cette information-là pour lui par rapport à son propre statut, il n'y aurait pas de possibilité là, qu'on le force à faire un dévoilement à ses enfants.
Non, mais je pense que ça fait quand même du sens avec tout... tout ce qu'on a vu sur le droit depuis le début de notre podcast, que ça reste confidentiel. Surtout aussi qu'il y a des parents qui deviennent séropos après avoir eu leur enfant. Là. Donc, ça serait un peu étrange de les obliger à retourner voir leurs grands ados ou leurs enfants qui ont quitté la maison pour être obligés de leur dire. Mais ce que je comprends, c'est ça, c'est si le parent est séropos, il n'est pas obligé de le dire. Mais dans le cas ici, comme de Cathy, Laurent, est-ce que la loi mentionne où on est obligé de dire le statut de l'enfant lui-même?
Oui, effectivement, parce que ça, c'est une situation qui n'est pas du tout la même. Hein? Mm-hmm. Puis, ben, en fait, comme bien souvent, la loi ne s'exprime pas clairement sur cette question précise-là. Mais je pense qu'il faut quand même qu'on prenne en compte des éléments légaux dans cette réflexion-là qu'on peut avoir en tant que parent ou une réflexion plus générale à ce sujet-là, à savoir, est-ce qu'on a l'obligation d'informer notre enfant de son propre statut? Ce que je veux dire, c'est que la loi, elle n'écrira pas noir sur blanc, là, vous devez dévoiler à votre enfant à tel âge. Par contre, il ne faut pas oublier qu'un enfant, ben, il va éventuellement être en mesure de prendre des décisions par rapport à sa propre santé, hein, de manière autonome, et de manière autonome même de ses parents. Là. Donc, sans le consentement de ses parents, pour être clair. Donc, à l'âge de 14 ans, un mineur peut se passer de l'autorisation parentale pour décider de recevoir des soins. Et donc, il faut qu'il soit informé sur son état de santé pour être en mesure de prendre des décisions qui vont lui convenir, puis aussi de prendre des décisions avec toute l'information sur sa santé à ce moment-là. Mmh. Si on n'est pas au courant d'une information sur sa santé, ben c'est pas par mauvaise foi, mais on peut pas prendre une décision en considérant tous les éléments. Autrement, on pourrait imaginer une situation où un enfant apprendrait par un intervenant du réseau de la santé, par exemple, son statut sérologique si ses parents n'avaient pas pris le temps, comme Cathy le fait, par exemple, d'informer ses enfants. Donc, en tant que parent, je pense qu'on peut penser à un meilleur scénario que son enfant apprenne éventuellement dans le bureau d'un médecin ou d'une médecin son statut sérologique. Donc, encore une fois, pas d'obligation légale ferme, mais je pense qu'il y a des conséquences légales importantes à prendre en compte ici, dont le moment où son enfant va pouvoir prendre des décisions par rapport à sa propre santé de manière autonome.
Puis c'est la seule considération légale qu'un parent doit prendre en compte, dans le fond?
Ben, je pense que dans ce même ordre d'idée-là, on peut aussi penser à d'autres questions, notamment quand est-ce que notre enfant va devenir sexuellement actif. Hein? On le sait, on en a parlé dans des épisodes sur les applis de rencontre, celui aussi sur les affaires d'Essayer ma bière, qu'on peut d'ailleurs aller réécouter à tout moment. Mais donc, je ne reviendrai pas sur les conséquences juridiques là, du dévoilement en matière de relations sexuelles, mais on le sait que la non-divulgation du VIH est encore criminalisée au Canada. Malheureusement. Et donc, en tant que parent, il faut aussi peut-être réfléchir, ou du moins avoir ça en tête, cette obligation légale-là qui existera éventuellement pour notre enfant quand, à un certain moment dans sa vie, notamment quand il va devenir sexuellement actif, qu'il va devoir composer avec cette criminalisation du VIH-là, c'est-à-dire de décider quand est-ce que je dévoile un partenaire sexuel, quand est-ce que je m'abstiens de dévoiler un partenaire sexuel. Et là, évidemment, une personne qui vit avec le VIH puis qui l'ignore n'est pas à risque de poursuite, mais je pense que ça serait tout de même une bonne pratique d'avoir une conversation sur le statut sérologique de son enfant avec lui avant qu'il devienne sexuellement actif, finalement.
Ah, ben ça fait du sens parce que on le sait, là, des fois, des parents qui veulent surprotéger leurs enfants, là, si jamais ça venait à leurs oreilles, là, même comme tu le dis, que c'est pas, on peut pas être criminalisé si on n'était pas au courant de son statut, là. J'imagine juste des histoires d'ados, d'amourettes, de summer fling, d'ados qui partent sur une chire, là, si c'était pas, c'est ça, si tout était pas mis au clair, d'abord, là. On est mieux, comme tu dis, de se protéger dans tous les sens du terme. Donc, Cathy, je reviens à toi pour te laisser le mot de la fin, en fait. Si il y a d'autres femmes qui vivent avec le VIH qui voudraient ou hésitent à avoir des enfants, est-ce qu'il y a quelque chose que tu aurais aimé savoir ou que tu as le goût de partager là, avec ces femmes-là?
Ben moi, tout ce que je pourrais leur dire, c'est s'ils ont le goût d'avoir des enfants, qu'ils aillent, qu'ils attendent pas, là, ça sert à rien. Il y a des protections pour les enfants, que ça soit médicamenté, à l'accouchement aussi, quand c'est le travail, ils mettent des médicaments dans les veines tout le long de l'accouchement pour protéger le bébé, il y a zéro, c'est vraiment 99,99% de chances qu'ils ne l'aillent pas. Mm-hmm. C'est minime, là. Mais tu sais, ils sont protégés, ils protègent au maximum, ils se mettent des médicaments dans les veines tout le long du travail, que ça soit l'accouchement ou même quand tu pars les os, ils te mettent tout le médicament, là. Ils attendent pas. Le bébé, il est bien protégé, il n'y a pas de danger. Après l'accouchement, ils donnent des médicaments aussi au cas où qu'il y ait quelque chose pour le protéger, pour être sûr à 100% qu'il ne l'ait pas attrapé. Fait que c'est vraiment, ça vaut la peine, là. Si tu souhaites avoir des enfants, ça vaut vraiment, vraiment la peine.
Puis aussi, tu sais, de ce que je comprends, de transmettre, sans l'intention de transmettre, mais de transmettre le VIH à un enfant par accident, sans le vouloir, c'est pas non plus la fin du monde. Cet enfant-là peut être pris en charge. La pire partie, c'est le stigma, tu sais. Mais...
La pire partie, c'est de l'apprendre.
Oui, c'est ça.
C'est la pire partie.
C'est ça, tu sais, mais après ça, tu sais, je parlais plus pour cet enfant-là, tu sais, ce qu'on vit de pire, j'imagine, parce que encore une fois, moi, séronégative Nancy, moi, je suis la... Moi, je suis la nounoune dans cette histoire-là, mais tu sais, j'imagine que la pire partie au quotidien, c'est aussi le stigma, tu sais. Mais outre ça, ben, je veux dire, moi, de ce que je comprends, ta première, être en santé, être heureuse, puis s'il y a des choses qui la rendent malheureuse ou qui lui amènent des défis dans la vie, ben, c'est pas son statut sérologique, c'est juste la vie, puis c'est normal, tu sais.
Oui, exactement, c'est juste la vie.
Merci tellement, Cathy, d'être venue nous parler de ton expérience de maternité puis de la parentalité. C'était vraiment le fun d'échanger avec toi.
Oui, vraiment.
Merci à vous de m'avoir accueilli.
Merci vraiment. Oui, c'est une perspective, je pense, qui était vraiment, vraiment pertinente. C'est le genre d'histoire dont on n'entend pas assez parler quand vient le temps de jaser de VIH. Merci encore. Donc, vous étiez pour la dernière fois de la saison avec Hugues Lefebvre-Moras
et Charlie Morin.
Je tiens aussi à remercier Laurent qui était là avec nous pour tous les conseils juridiques que tu as donnés au courant de la saison.
Eh bien, c'est un très grand plaisir d'avoir la chance de participer à ce podcast-là. Merci d'avoir animé toute la saison. Merci aussi à toi, Cathy, d'avoir été avec nous pour cet épisode-là.
Encore une fois, merci à vous.
Yes, puis un gros merci à Marie Larochelle, aussi notre monteuse de toujours. Donc, vous étiez avec Hugues.
Et Charlie.
Ciao tout le monde!
Bye!